Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Oui, bonjour, vous êtes bien en direct, enfin on espère, de Radio Panique pour l'émission de Vie Féminine Bruxelles, Elles en parlent encore. Alors aujourd'hui, on vous a concocté avec l'équipe presque complète une émission spéciale fête, mais une fête à notre façon, parce qu'évidemment, on va en profiter pour vous parler des régimes, de comment on mange, du corps des femmes. Voilà, donc nous sommes en direct avec Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour Hélène.
Avec Martha.
Bonjour.
Et avec Tamara
à la régie. Bonjour.
Voilà. Donc cette émission, elle va être divisée en trois parties. D'abord, on va vous parler à partir d'un livre de Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement. C'est un livre qui date des années 80. On va vous parler de la manière de manger dans les différentes classes sociales, et puis avec un petit regard genre. Et puis, on va vous parler à partir d'un article du CIEP MOC, à quelle sauce sont-elles mangées, des stéréotypes liés à l'alimentation et de l'impact que ça a sur la vie des femmes. Et puis, on va un petit peu s'amuser parce qu'on a décortiqué ensemble un petit peu la presse people, la presse féminine et la presse santé pour parler avec vous en cette période de fête de ce qu'il y a sur les régimes, le corps des femmes. Et puis voilà. Donc, moi, je vous propose déjà peut-être de faire une première pause musicale avec un morceau qui s'appelle La vache enrachée, un morceau de j'ai oublié qui, zut.
Il s'agit de Brigitte Fontaine.
Merci Tamara.
Est-ce qu'on en a mangé de la vache enragée? Est-ce qu'on s'en est gavé de la vache enragée? On s'en est pour lécher de la vache enragée. On s'en est empipré. On en a dégusté de la vache enragée. Faut que tout le monde ait sa part, faut que tout le monde ait son jour, faut que tout le monde ait son tour de vache enragée. Et si vous n'en voulez pas, on vous fera monter une bière avec des poignées d'argent.
Alors, de la vache enragée, j'espère que vous n'en aurez pas dans vos assiettes pour les réveillons et pour les fêtes. Donc, vous êtes toujours en direct sur l'émission Elles en parlent encore de Radio Panique. C'est notre émission spéciale fête de fin d'année. Alimentation, corps des femmes, régime, tout ça, nous allons questionner. Et on va commencer par nous accrocher à un livre donc, qui s'appelle La distinction, un livre de Bourdieu, qui parle donc des différentes façons de manger. Donc Tamara, toi, tu as jeté un coup d'œil sur ce livre et tu as des choses à partager avec nous.
Voilà, donc en fait, il s'agit d'une lecture à la page 214 de La distinction, rédigée par Pierre Bourdieu, éminent sociologue du Collège de France. La distinction critique sociale du jugement a été écrite dans les années 1979. Vous dire son actualité avec évidemment des évolutions, des variantes, puisque aujourd'hui les choses ont un petit peu changé. Néanmoins, Pierre Bourdieu nous parle beaucoup de déterminisme, de tendance, on va dire, lourde dans le corps social. Et il va nous dire que à la page 214, le goût, le fait de manger, est une affaire de classe sociale. Alors, commencer par ça, c'est déjà assez fort. Et c'est vrai qu'il nous explique cela en disant que la sélection de certaines nourritures s'opère dans la manière de tenir son corps dans l'acte de manger. En gros, choisir une nourriture, c'est aussi choisir la façon dont on va l'ingurgiter. Et il nous donne un exemple assez concret en parlant du poisson. À l'époque, le poisson, dans les classes populaires, les classes ouvrières, n'est pas un aliment qui tient au corps. Ce n'est pas un aliment destiné à un mets copieux. Il s'agit plutôt d'un produit alimentaire qui est plutôt lié à une diététique, des gens infirmes ou des gens malades, pour pouvoir peut-être une consistance légère, un mets délicat. C'est quelque chose qui ne tient pas au corps. Et donc ici, l'acte de manger du poisson se fait avec retenue, par petites bouchées, avec le devant de la bouche, en mastiquant bien sur le bout des dents. Autrement dit, vous avez les lèvres un petit peu en cœur, comme ça, et vous mâchouillez tout doucement pour éviter d'avaler les arêtes, bien entendu. Évidemment, cette manière de manger ne correspond pas beaucoup à l'attitude masculine, selon Pierre Bourdieu. En fait, cette attitude masculine dite virile, eh bien, elle ne se rencontre pas dans cet acte de manger, puisque l'attitude virile du fait de manger, c'est plutôt prendre à pleines dents, par grosses bouchées, et donc d'être un petit peu viril. Alors, c'est là qu'il dit que le choix de certaines nourritures va se faire en fonction de la manière de manger. C'est un peu comme quand on prend la parole. Les femmes ont la fine bouche et les hommes la grande gueule. Il nous explique aussi que par exemple, la grande campagne de ce pastis qu'on boit dans le midi de la France, eh bien, ça a très bien marché parce que c'était servi dans des grands verres et donc une grande rassade pour désaltérer ces grands hommes. Bon, c'est un petit peu
caricatural,
mais quelque part, on peut se souvenir que ça montre quand même qu'il y a un schéma corporel, une attention du corps vis-à-vis du choix des aliments. Et donc, je trouvais ça intéressant de lire Pierre Bourdieu dans les années 1979 pour nous amener à justement réfléchir comment ça se fait que voilà, la nourriture est quelque part sexuée. La nourriture a un sexe. Il nous explique aussi que les femmes, elles cèdent les beaux morceaux à leur mari ou à leurs enfants, parce qu'aussi, elles ne se sentiraient pas bien. Elle ne sentirait pas juste de voir quelqu'un privé de la bonne nourriture. C'est aussi une attitude féminine vis-à-vis du choix et de la distinction de l'alimentation. Donc voilà, je voulais vous partager cette constatation qui est issue des années 1979, mais peut-être tout au long de notre émission, on va voir que les choses s'affinent, se détaillent, mais finalement, il n'a peut-être pas tout à fait raté son analyse.
Et d'ailleurs, toi, Martha, et puis toi aussi, Alexandra, ça vous a fait tout de suite penser à un sketch de Florence Foresti?
Oui, à Florence Foresti dans « J'aime pas les garçons », mettait bien en scène le stéréotype du gros steak imposant qui est nécessaire à tout plat pour un homme, et de la grosse patate aussi.
Ouais. Et pareil pour les femmes, parce qu'il y en a un autre, J'aime pas les filles, où elle parle de la petite salade que la fille mange délicatement. Donc elle fait vraiment l'opposition des deux, et voilà.
Elle s'est bien inspirée de Pierre Bourdieu, parce qu'il parle de ça également, de la petite salade pour les femmes.
Ben voilà, elle a peut-être lu.
C'est vrai que maintenant, les salades, c'est le plat... que les femmes, toute femme qui se respecte devrait manger pour garder sa ligne. J'utilise le ton ironique, bien sûr. Mais il y a aussi tous des produits de consommation qui se prétendent légers, qui se prétendent sains, ou qui se prétendent bien appropriés pour un régime féminin, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans les supermarchés, mais en fait qui ne le sont pas du tout. Je vais citer par exemple certaines barres de régime qui substituent un repas, donc des repas minceurs, des puddings, des barres hyperprotéinées, et qui sont en fait composés principalement de sirop de glucose, de sucre et de graisse, avec un ajout de vitamines synthétiques, ou alors des pilules aussi, des modérateurs d'appétit en quantité. J'ai remarqué aussi que, par exemple, Weight Watcher, qui est à la base un régime, s'est lancé dans l'industrie agroalimentaire en faisant des salades de viande et des poulets andalouses dans de la sauce, mais qui ne se distinguent pas trop des autres produits de sandwich. Et qui se distingue juste parce qu'il y a le nombre de points qui est annoté à côté. On retrouve aussi, donc, par exemple, des salamis Weight Watcher. Ça pose question.
Ça pose question et puis ça fait un peu lien, je pense, aussi avec ce qu'on essaye de voir dans la vie féminine. C'est un petit peu comment le sexisme est en lien avec le capitalisme, avec le racisme. Et,
Oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, justement, à ce niveau-là, parce que pour moi, ça évoque vraiment bien la pression qu'il y a sur les femmes, justement, qu'on voit sur la couverture de tous les magazines et qui sont taille 36, 38, si pas en dessous, la taille en dessous, et qui ont l'air, comme ça, d'être absolument sans défaut. Même si, sans doute, beaucoup de femmes savent bien que ces publicités sont retouchées, le fait de les voir comme ça, sans cesse, partout, que ce soit sur Internet, à la télé, dans les magazines, ça influence malgré tout. Et donc, voilà, c'est tout un système
Le but de la publicité est tout d'abord de créer un complexe chez la femme qui va être du coup sujette à la consommation. Donc, c'est...
C'est le système qui est comme ça, justement. Voilà, donc c'est lié.
Moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est par rapport à ça. Je me dis, nous, en tant qu'adultes, on sait que les corps ne sont pas parfaits, mais les jeunes enfants, les adolescents, les adolescentes qui grandissent, ils doivent faire avec des publicités mensongères un petit peu tout le temps. Et quelle distance ils peuvent avoir par rapport à ça, ça me semble complexe.
Tout à fait. Et peut-être au niveau de l'éducation, ce serait pas mal d'avoir plus de prévention. Je ne sais pas ce qui est fait, mais ce serait pas mal dans les écoles. Sans doute qu'il y a déjà des choses qui sont faites, mais peut-être pas assez.
C'est-à-dire que dire aux enfants manger une pomme sur le coup de 10 heures ou sur le coup de 4 heures, oui, à l'école, on peut encore le faire et c'est peut-être ça que les écoles vont promotionner. Mais les écoles ferment à 4 heures et puis la télévision remplace parfois la présence des amis, des parents, de la famille. Et bien la télévision, elle n'est pas du tout éduquée en l'occurrence.
C'est ça, il faudrait une éducation à la télévision et aux magazines, à Internet, à ce niveau-là, comme à d'autres.
Oui, puis moi je pense qu'il y a aussi sous prétexte de santé, donc on donne des messages aux enfants et parfois je pense que c'est pas clair de savoir ce qui est de l'ordre de la santé et puis la maladie de l'anorexie, de l'ultra minceur. Je pense que c'est pas si évident de savoir être bien dans son corps parce qu'on a un peu de kilos en trop et manger sain. Où est la frontière par rapport à ce que la nourriture soit vécue comme une ennemie et ne plus manger et être tout le temps devant un miroir qui renvoie une image qui n'est pas celle qu'on pense qu'on devrait avoir, c'est complexe. Ça me donne envie, justement, je vais le placer. J'avais, ce matin, pour préparer l'émission, j'étais sur un site pro anorexie et je voulais vous lire juste un petit passage du blog. Et voilà, c'est pro-ana. Pro-Anna, 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 pro-Anna. Minceur, régime, minceur, régime, minceur, régime, minceur, régime, minceur, régime. Maigrir, perdre du poids, maigrir, perdre du poids, maigrir, perdre du poids, maigrir, perdre du poids. Mince et belle, mince et belle, mince et belle, mince. Belle, mince, belle, mince, belle, mince, belle, mince, belle, mince, belle. Anna me martèle tout le temps ces mots-là. Anna, c'est le petit mot d'anorexie, parce qu'apparemment... Les personnes anorexiques ont vraiment un rapport presque personnel à leur maladie. Enfin, voilà. Bon, moi, je trouve que là, on ferait bien une pause musicale, parce que c'est un peu rude. Donc, on va peut-être partir sur Linda Lemay et la salade de fruits. Tiens, voilà, puisqu'on parlait de régime et de minceur, pourquoi pas.
Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet. Elle plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille. Ils ont fait un navet. Ma tante, elle est une tarte, une grosse tarte aux bacanes. Elle a eu trois tomates de différentes bananes. Je connais aussi un œuf en voiture sport qui promène son bacon et sa saucisse de porc. Et moi je suis du poudin. pas grave, qu'il faut pas que j'aie de chagrin, qu'il faut que je sois brave. Elle dit que du boudin, il y en a qui adorent ça, qu'il y a sûrement un raisin qui me fera des petits pois. Elle me raconte sa vie, sa petite vie de navet, ses premières cochonneries avec un jeune poulet. Elle dit que je suis belle ou enfin très jolie, que je vaux bien n'importe quel bâton de pépéroni.
Nous sommes toujours en direct sur l'émission de Vie Féminine Bruxelles, Elles en parlent encore, sur Radio Panique 105.4. Alors après cette pause, nous sommes en train de... Nous avons discuté d'ailleurs pendant la pause, en fait, en se disant, tiens, est-ce que ça a changé? Est-ce que les hommes, les femmes mangent toujours différemment? Ou est-ce que le mode de vie qui a changé, le fait que tout le monde travaille, qu'on n'est plus tant préparé à manger? Enfin, est-ce que tout ça a changé tout le monde travaille, tout le monde tente de travailler, a changé notre façon, notre regard par rapport à l'alimentation. On n'était pas très d'accord toujours avec ça. Et puis peut-être qu'en réponse à ça, on peut peut-être vous lire un article de Siem Mok qui est paru dans l'Axel, le seul journal féministe en Belgique francophone, qui s'appelle « À quelle sauce seront-elles mangées ?»
Voilà, donc je vais vous lire cet article qui va peut-être nous donner un éclairage. Femmes et alimentation, à quelle sauce sont-elles mangées? Difficile de dissocier l'alimentation des rôles traditionnellement attribués aux femmes. Comme d'autres tâches domestiques, les courses, la cuisine et la prévision des repas ou des collations sont encore majoritairement assumées par les femmes. Les stéréotypes véhiculés dans les médias et les publicités se chargent suffisamment de nous le rappeler. En temps de crise, nous n'avons pas fini d'entendre parler du panier de la ménagère. À travers la préparation des repas, les femmes deviennent dépositaires de la santé de leur entourage. Elles sont, à ce titre, bombardées d'injonctions contradictoires et culpabilisantes. Il faut cuisiner bon, sain, rapide, facile, bon marché, de saison, etc. De plus, cette responsabilité pèse aussi directement sur leur propre santé. En effet, la santé est souvent un lieu d'économie pour les femmes en situation de précarité, et encore plus quand elles ont des enfants. Elles rognent donc fréquemment sur leur budget alimentation. Exemple, je sais que j'ai du cholestérol, mais quand j'ai payé mon loyer et mes factures, il ne me reste plus rien, alors je suis obligée de manger des crasses. Enfin, les problèmes liés à l'alimentation ont également des effets spécifiques sur la santé des femmes. À titre d'exemple, plusieurs études établissent des liens entre une alimentation trop grasse et le risque de cancer du sein. Et comment interpréter les troubles alimentaires, anorexie et boulimie, majoritairement féminins, dans un monde qui prône à la fois la minceur des femmes à tout prix et la satisfaction immédiate de tous nos petits creux? Mais moi, je pense que ça rejoint ce dont on a évoqué en première partie, donc à savoir sur cette pression qui s'exerce sur les femmes et qui fait qu'en fin de compte, à mon avis, les choses n'ont peut-être pas tellement changé depuis ce que Bourdieu a écrit.
À la suite de l'article, c'est « Nous pouvons changer les choses », un petit encadré. « Chacun en prenant une répartition plus égalitaire des tâches domestiques, afin que les choix alimentaires plus sains, plus de fruits, légumes locaux et de saison, ne restent pas la seule responsabilité des femmes. Ensemble, en repensant notre société de consommation et ses impacts sur la santé des femmes, commençons par déconstruire les stéréotypes sexistes de la publicité, particulièrement présents dans les produits alimentaires. » Enfin, comme le revendique l'OMS, la politique de santé doit prendre en compte la santé des femmes de manière globale, en intégrant leurs conditions de vie et les rôles qui pèsent sur elles. Ceci passe entre autres par des politiques d'emploi et de sécurité sociale qui garantissent à chacun un revenu décent, qui seul rendra possible de véritables choix en termes d'alimentation.
Voilà. Donc c'est un article qui est déjà très complet. Moi, je veux me poser la question à nous toutes. Donc, est-ce que c'est encore les femmes qui cuisinent? Alexandra, tu disais que dans les publicités, on voyait encore en tout cas que c'était les femmes qui cuisinaient, que c'était toujours...
Ben oui, en tout cas, moi, je suis frappée en ayant feuilleté la presse féminine, ici en l'occurrence j'ai un magazine santé, et dans ce magazine, effectivement, on donne plein de petits conseils pour le réveillon parfait, réveillonner sans privation, sans capiton, pour déguster sans le payer, il faut s'organiser, avant les fêtes j'anticipe, et donc tout ça s'adresse aux femmes, il y a des photos de femmes, il y a des photos de petites filles qui font la cuisine, donc ça semble ne pas s'adresser aux hommes, et Voilà, on nous propose le réveillon parfait à coup de petits conseils, donc qui en fin de compte, voilà, pour moi, n'apporte pas grand-chose si ce n'est de renforcer la pression qui s'exerce sur les femmes. Et donc, c'est un peu symptomatique que la société s'adresse toujours aux femmes pour ce qui est de préparer la cuisine, les réveillons et autres.
En tout cas, c'est les femmes qui achètent principalement ou qui décident des articles qui vont être achetés pour la famille, parce que c'est elles qui sont les proies du marketing, d'ailleurs, parce qu'elles sont chefs de ménage, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que toutes les publicités s'adressent à elles. C'est elles qui vont décider de ce qui va être acheté, quoi, principalement.
Et c'est sans doute pour ça, puisqu'il y a une énorme pression sur le corps des femmes qui doit être évidemment parfait, ultra mince, comme ils disent parfois, ben, qu'il y a toutes ces gammes de produits de régime qui sortent et qui sont mis en tête de rayon pour être vendus.
Voilà, et j'ajoute que dans cet article, enfin ce pseudo-article, on va dire, de petits conseils, on trouve aussi un coup de pouce minceur avec voilà, un produit d'un laboratoire pharmaceutique minceur voilà, pour resculpter. Voilà, au cas où, malgré le réveillon parfait, on aurait quand même fait des excès. Voilà, donc moi, je suis vraiment en colère contre ce genre d'article.
Et alors, moi aussi, par rapport à l'article de Bourdieu, et puis là aussi, là, pour faire le lien avec l'article du Siebmoch, je me dis aussi que moi, en tant que maman, parfois, quand je cuisine, c'est vrai, j'ai du mal à laisser, à ne pas donner les meilleures parts. On sert d'abord l'homme, les enfants, et puis on garde ce qui reste pour soi. Et donc, le plaisir de manger quelque chose qu'on a choisi et de se garder le morceau qu'on a envie de manger, encore ça, moi maintenant, en tant que maman, je me dis, je peux pas faire ça, je vais laisser ça aux enfants, enfin voilà quoi.
Et c'est aussi contradictoire avec justement ce que je vois dans ce magazine, par exemple, réveillonner sans privation. Donc voilà, les femmes ne doivent pas non plus se priver. C'est un peu l'injonction du plaisir à tout prix, alors qu'effectivement, il y a peut-être dans les familles qui ont des enfants, comme tu dis, ce souci de passer après tous les autres. Quoi. Donc,
c'est un peu ça. Ce qu'elle disait par rapport à cet extrait du livre Au féminin précaire. Elle disait, voilà, à la fin du mois, c'est ma santé qui en pâtit parce que je mange ce que j'ai les moyens de manger. Et on ne dit pas ce qu'elle l'offre à ses enfants, mais elle dit, voilà, c'est effectivement des crasses, c'est effectivement gras, on n'a pas toujours les moyens de manger bien. Voilà, et ajouter à ça ou en opposition à ça, on sait aussi que finalement les personnes consacrent de moins en moins de montants à l'alimentation, ce qui peut aussi être mis en lien avec ça. On se dit, si les budgets des ménages consacrent peu d'argent à l'alimentation, comment est-ce qu'on peut défendre alors un mieux manger,
Oui, et ce qu'on entend beaucoup, c'est justement, encore une fois, des pressions pour manger 5 fruits et 5 légumes par jour, alors que dans la réalité des femmes, pour toute une série de raisons, c'est pas possible, comme tu viens d'expliquer.
Puis même, je pense que physiquement, manger 5 fruits et 5 légumes par jour, c'est très difficilement faisable. Et d'ailleurs, c'est controversé aussi, parce que, je veux dire, sans tomber dans l'obsession de la nourriture, ces 5 fruits et légumes contiennent aussi des pesticides, contiennent aussi des produits chimiques. Et maintenant, la question est de savoir si la chimie qui va se produire dans notre corps à ce moment-là, ça ne va pas être plus nocif que bénéfique, en fait. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une émission sur la RTBF. Mais ce que je voulais dire, c'était que toutes ces publicités.
Écoute, moi, pour revenir à ce que tu disais, je pense que c'est Tu vois, je me dis effectivement, pour manger des fruits et des légumes et que ce soit bon, il faudrait que ce soit bio, il faudrait que ce soit local. Et ça, ça prend beaucoup de temps et ça coûte plus cher. Et ça demande aussi de faire toute une réflexion parce que ça veut dire aussi qu'il faut accepter de ne pas manger ce qu'on a envie de manger. Et ce qu'on nous dit qu'on peut manger à toute période de l'année, et de manger local, ça veut dire manger aussi des choux en hiver, ça veut dire peut-être payer plus cher, ça veut dire plein de choses qui sont très différentes.
Mais moi je ne suis pas convaincue par le fait que, enfin, parce que tu dis, je pense que manger bien ne rime pas spécialement avec manger plus cher. D'ailleurs, toutes ces choses qui ne nous apportent pas spécialement les protéines et les vitamines nécessaires, qui sont les barres, toutes les crasses qu'on peut imaginer, enfin, qui sont disponibles sur le marché, tout ça, ça coûte en fait. Et si on comptabilise bien toutes ces dépenses, tous ces produits qui sont pas nécessaires et qui encrassent notre organisme. On ferait mieux de les remplacer par des produits qui sont de meilleure qualité et qui sont vraiment nécessaires, dont l'organisme pourrait tirer profit, quoi.
Et pour moi, ce que tu évoques, ça fait vraiment partie de l'éducation à l'alimentation, parce que c'est sûr que quand on voit tout ce qu'on peut trouver, par exemple, pas cher chez Aldi, et qu'on voit des chariots remplis à ras bord, on se demande ce qui est vraiment nécessaire là-dedans. Et ça, c'est parce qu'il y a justement cette course à la consommation, que les gens sont pas éduqués. Et je connais très bien quelqu'un qui travaille dans un magasin bio et qui me disait, en fait, le bio, quand on fait le compte et qu'on achète vraiment ce qui est nécessaire, c'est gérable et c'est pas plus cher. Mais il faut le savoir, il faut le faire, ce sont d'autres démarches qui sont pas nécessairement, qui ne coulent pas de source nécessairement. Voilà.
Parce qu'il y a une grande part une grande part des familles qui ne calculent pas vraiment ou par leurs dépenses finalement. Et en fait, il y a des fuites dans les budgets parce que les enfants achètent dans des distributeurs. À l'école, parce que on achète toutes des petites choses comme ça et on se rend pas compte, mais à la fin du mois, ça fait une sacrée somme. Voilà, ça j'ai pu remarquer moi-même en tenant ma comptabilité.
Je vois que Tamara, t'as envie d'intervenir.
Ben oui, j'entends ça. Donc l'histoire de ça coûte pas si cher si on entreprend une autre démarche et qu'on se questionne notamment sur le coût de ses choix alimentaires, c'est une chose certes. Ma belle-sœur, va dire, elle a une petite fille et elle était dans cette veine-là de dire oh non, moi c'est trop cher, j'achète pas. Et puis on a quand même parlé ensemble et quelques mois plus tard, elle était, elle avait fait la démarche, elle allait dans les magasins, etc. Et en fait, elle me disait, moi je prépare les choses à l'avant, je fais des petits gâteaux pour ma fille plutôt que d'acheter des collations. Et puis elle me disait aussi, mais ça prend un temps fou.
Ouais.
Ça prend un temps fou. Bon, là, il se trouve qu'elle est famille monoparentale, donc forcément, il n'y a personne pour la soutenir dans cette démarche de faire les petites collations des enfants. Mais dans l'article du CIEP, ils disent ça. Ils disent que quand même, c'est pas tout de revenir à une alimentation que l'on gère soi-même, on fabrique soi-même et on fait soi-même. Si les femmes continuent à le faire seules, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, parce que finalement, si on a une analyse un peu sexiste, ça la renvoie toujours à la cuisine. Alors que l'idée, c'est effectivement de faire des économies, mais ce n'est pas de les faire pour passer tout son temps derrière les fourneaux non plus. Aujourd'hui, avec la question de l'émancipation des femmes, ce n'est pas pour la rattacher par la démarche alimentation saine, bio, fabriquée maison, etc., pour la remettre à la cuisine. Donc il y a quelque chose qui est problématique. Et le CIEPMOC parle notamment de faire des achats ensemble, de partager ses tâches domestiques et ses achats pour cuisiner ensemble, ou chacun. Bon, c'est pas donné pour tout le monde, bien sûr, ça dépend un peu de la vitalité et la pérennité d'un couple, mais ça pose la question que si un couple entreprend cette démarche, est-ce que c'est la femme qui va se coltiner à nouveau les produits maison et donc les bonnes choses à manger, qui sont certes bonnes pour les enfants, mais peut-être pour leur temps libre, ça coince. Voilà. Sauf si elles plaisent à faire des cuisines, je ne dis pas le contraire.
Je suis évidemment entièrement d'accord avec ça et c'était tout à fait dans ce sens-là que j'en parlais. Le manger sain, la nourriture, tout ce qui concerne la nourriture concerne autant l'homme que la femme. Donc ça, c'est pour moi évident.
Et puis moi, ce qui me frappe, c'est que dans nos interventions, parce que pour tenir la route au niveau temps, au niveau énergie, dans une famille, et arriver à manger sain, équilibré, local et tout, ça demande une gestion des choses qui est très proche des gens qui sont au régime, quoi, de se dire « Ah, je vais aller dans ce magasin-là chercher ce produit-là, puis je vais aller faire ça, et puis ça, et puis je vais préparer à l'avance pour pouvoir donner tout ça. » C'est une énergie folle, voilà, donc peut-être qu'il faut, comme avec les régimes, comme avec le capitalisme et tout ça, mettre les choses à leur juste milieu et se dire qu'on peut tendre vers ça, mais équilibrer, essayer d'équilibrer les choses par rapport à sa vie à soi, sa vie sociale, sa vie personnelle, sa vie familiale et tout ça, en se disant qu'on tend vers quelque chose qui serait peut-être mieux, mais ne pas commencer à se culpabiliser à mort si on a ouvert une conserve, quoi.
Oui, et là, je voudrais rebondir sur un exemple personnel, puisque ce que tu dis me fait vraiment penser à... moi, je suis vraiment loin des principes que je voudrais avoir et qui seraient de manger vraiment 100% bio, mais je le fais pas. Et effectivement, je me trouve plus ou moins dans un équilibre avec ce que je me dis qui est pour moi, pour l'instant, faisable. Et je n'ai pas d'enfant. Et j'espère vraiment... le jour où j'aurai des enfants, pouvoir me dire que je peux continuer dans un équilibre où je tends vers ce que je pense qui est de mieux et dont on parle. Et donc, je conçois tout à fait que ça doit être très difficile de résister à cette pression et de prendre les choses autrement. Aussi parce que justement, ça implique un partage des tâches qui n'est pas forcément là et voilà, qui coule pas de source non plus, je pense.
Non, je pense qu'avant de parler de nourriture qui ne fait pas grossir, avant de parler de régime, avant de faire attention à sa ligne, on fait attention à la santé, et ça, c'est primordial quand même. Je pense que, pour répondre à Tamara, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de passer du temps derrière les fourneaux. Maintenant, il y a beaucoup de livres de recettes qui font... Je propose des recettes très rapides et très faciles à réaliser. Mais la nourriture, ça demande un minimum de temps. Et on met les produits préparés, on peut... ça, c'est mon opinion personnelle. On peut y avoir recours de temps en temps quand on est pressé ou quoi, mais c'est pas pour ça que ça doit être... Une norme, quoi, une habitude. Et en dehors du régime, je pense qu'on parle vraiment de santé, quoi.
Oui, mais c'est une norme qui est aussi imposée par la société, je trouve, tu vois, dans le sens où les femmes n'ont pas... Enfin, ça me semble évident que les femmes, aujourd'hui, en tout cas certaines, n'ont pas le temps de passer du temps... derrière les fourneaux, et justement, comme ce partage des tâches n'est pas encore assez là,
oui,
voilà,
ça
les renvoie quand même.
C'est ce qu'on dit, non pas le temps de passer du temps, mais par exemple, un spaghetti bolognaise, ça prend autant de temps qu'un autre plat beaucoup plus sain, beaucoup plus... on a parfois l'impression de passer du temps pour des choses qui ne prennent pas tant de temps que ça, quoi. Ça, c'est ce que je dis... On a une imagination, on s'imagine que faire des plats, ça prend un temps monstrueux, mais c'est pas toujours le cas, quoi.
Mais je me demande si là, on se dirige pas vers autre chose, parce que moi, ça me fait penser à justement quelque chose qui était très ancré comme étant un stéréotype de la femme, c'est-à-dire être derrière les fourneaux, et que les femmes, justement, avec l'émancipation, se sont dit, non, je veux plus être derrière les fourneaux. Donc tout ce qui est assimilé à la cuisine. Et assimilé à ça va prendre du temps, ça va me renvoyer à une sorte de d'essence de femme comme ça, où la femme doit être derrière les fourneaux. Et donc c'est un peu de rééquilibrer en disant d'abord ça concerne pas que les femmes, et puis c'est pas mauvais en soi d'être derrière les fourneaux comme tu le dis, et il y a moyen de faire des choses équilibrées. Mais je crois que ça fait tellement partie d'un stéréotype que, à mon avis, il y a une ambivalence à ce niveau-là aussi.
Oui, c'est où trouver l'équilibre, en se disant qu'effectivement, c'est lié au stéréotype où les femmes sont derrière les fourneaux et sont gardiennes de la santé de la famille. Et voilà, maintenant on peut peut-être essayer d'être créatif et se dire, ok, à un moment donné, il faut lutter contre peut-être le capitalisme qui est derrière tout ça, qui est de dire, il faut rentabiliser son temps, il faut travailler, il faut aller vite pour tout. Aller en contre-courant, malheureusement, ensemble, parce que tout seul, c'est très compliqué. Aller vers, effectivement, lutter contre le sexisme et aller vers un partage des tâches et de se dire, OK, on revient un petit peu en arrière, on réajuste un petit peu les choses et on partage ce qui est de la santé et de l'alimentation. Et on essaye, effectivement, via l'éducation partagée, via les réflexions qu'on peut avoir ensemble, d'un peu lutter contre toutes ces pressions à l'achat et à la consommation de loisirs tout autant que l'alimentation peut-être aussi.
En tout cas, c'est vraiment pas utile d'à nouveau stigmatiser les femmes en disant il faut qu'elles soient comme ci, comme ça. Alors comme tu le dis, c'est un problème de société.
Allez, on se ferait bien un petit souchon. Maman Bobo ou non, mange trop.
Non, Papa Mambo, oui. Ça c'est le titre de la chanson, mais tout le monde connaît bien le refrain. On est foutu, on mange trop, à vous.
Tchou, on était bon.
Ton œil profond d'Hidalgo Tango, tes joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo, tombe de haut gringo pistolero, dans la crème chantilly les gâteaux. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelés poètes, tout lui vit au milieu des tempêtes. Mais l'estomac, il tient pas la rime. L'albatros patauge dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau. Tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous la beau, nous la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Alors, on est toujours en direct de l'émission de Vie Féminine Bruxelles, Elles en parlent encore, sur Radio Panique 105.4. Alors, Martha, toi, justement, on est foutu, on mange trop, tu avais trouvé dans une publicité quelque chose de rigolo, un conseil minceur.
Bien, j'ai vu dans un magazine féminin, une page publicité, où on voit une femme en robe rouge qui est collée au téléphone à son GSM et qui tient dans sa main droite une barre de chocolat qui est complètement dégoulinée sur son bras, sur son avant-bras. Et alors le slogan c'est « Plus vous parlez, moins vous mangez ». Flair mobile, bon pour votre ligne.
Ce qui est amusant, c'est que ce soit Flair, parce que c'est un magazine féminin. Donc c'est Flair qui promotionne son outil en disant bah, « Parlez ». Parler.
Je trouvais que ça faisait très cliché et voilà, elle m'a bien fait rire.
Est-ce que une autre chose est vraie, c'est que aussi une autre analyse sociologique, c'est qu'il fut un temps où c'était les femmes qui passaient beaucoup plus de temps au téléphone que les hommes, parce que c'est elles qui faisaient le lien social. Et donc on continue d'être quand même dans des stéréotypes, mais aussi des tendances. Et aujourd'hui, ben en fait, là pour le coup, les hommes et les femmes passent beaucoup de temps au téléphone. Puisque la télécommunication est devenue une part importante du budget ménage, justement, dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Alors, on a un peu feuilleté pour vous donc, la presse de ces dernières semaines. Moi, je me suis amusée à regarder un peu dans la presse People. Et dans la, je crois que c'est le Oups de ce mois-ci, il y a les pires et les moins bons people. Et dans la catégorie moins bons people, il y a la catégorie prise de poids, ceux qui ont pris le plus de poids cette année. Il y a 5 nominés, 1 homme, 4 femmes. Voilà. Et voilà.
Comme par hasard.
Voilà, toujours cette image sur le corps des femmes. Toi, t'as regardé aussi un petit peu
Moi non, j'étais toujours dans la santé et non c'est
C'est voilà ce que je vous ai dit sur tout ce qui est allégé et le bien sûr avoir son petit livret de calories à portée de main, donc sur sa table de chevet et donc faire une bûche de Noël allégée. Et donc voilà, et surtout, nous dit une diététicienne, après un repas de fête, ne pas culpabiliser. Donc là, c'est vraiment pour moi la totale. Donc on doit compter toutes ces calories, mais surtout, si jamais on fait des excès, ne pas culpabiliser. Donc voilà.
Oui, Martha ?
Ça me fait penser à, d'ailleurs à la publicité mensongère qui se prétend light, par exemple, la polémique qu'a suscité la publicité pour Kellogg's. D'ailleurs, qui a été condamné, donc avec 0% de matière grasse, ou d'autres produits un peu anecdotiques. Là, je pense à, par exemple, aux produits de Knorr Vie, donc des petits flacons un peu comme les Actimel et les Yakult, qui a comme slogan « Soutien vos défenses naturelles » et qui est composé simplement à base de jus de fruits concentrés avec... un petit ajout de fibres. D'autres produits qui m'ont bien fait rire aussi, c'est le beurre liquide enrichi aux oméga 3 et 6. Déjà, le beurre liquide, je trouvais ça un peu, un peu rigolo. Et alors, les oméga 3, évidemment, les oméga 3 et 6 qui disparaissent avec la chaleur, ça, c'est assez marrant. Sans parler, par exemple, du mozzarella light qu'on a testé d'ailleurs et qui explose dans le four. Voilà. d'autres produits dans d'autres catégories, par exemple le shampoing formule anti-gravité. Je trouve ça assez exceptionnel. Donc, on nous prend pas pour des cons, quoi.
Ils vont bientôt nous proposer des shampoings ou des gels douches. C'est pas anti-gravité, on va se mettre à flotter. Plus de problème de poids. Ouais, on flotte. Oui, sinon, moi, toujours dans ma petite presse People, j'avais relevé dans un numéro deux articles sur des anorexies. Un, l'anorexie d'un monsieur. Yvan Attal, l'autre, l'anorexie de la fille Jacques Chirac. Et puis dans ce même magazine, en fait, une mannequin qui pesait 1m50, donc qui mesurait 1m80 et qui pesait 55 kilos, qui disait que pour les défilés de mode, elle était trop grosse, qu'on lui trouvait trop de seins, trop, enfin je sais pas, je me dis, je sais pas ce qu'il trouvait en trop, mais apparemment, ça ne correspond pas à l'image que... les sociétés d'habillement, enfin je sais pas, veulent promouvoir.
Mais c'est vrai que de toute façon, sur toutes les publicités, je sais pas, je pense aux publicités pour la lingerie notamment, voilà, les femmes sont hyper minces et sont sans aucun défaut, entre guillemets, parfaites. Et, voilà.
Elles sont surtout dans des positions très sexuelles, hein, dans certaines marques.
C'est... Non, c'est bien que ça fait vendre et que ce soit pour de la lingerie ou pour autre chose de toute façon. Et tu m'avais cité la pub de Magnum là, donc c'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact une femme qui mange sensuellement un Magnum que qu'un homme par exemple qui ferait ça. En tout cas, ce sont des femmes qu'on voit le plus souvent.
Ah, attention. Ce matin, j'ai entendu à la radio une publicité pour des cracottes apéritives. Et c'est un homme qui parle avec une voix d'une sensualité. Tu as l'impression qu'il est dans une boîte de nuit et qu'il va rencontrer quelqu'un et que c'est vraiment génial. Et c'est un homme qui parle. Et donc, ça m'a surpris, cette publicité, parce que c'est vraiment tendancieux. C'est clairement sexuel, mais c'est pour un apéritif maison, quoi. Donc, tu cracottes ta biscotte. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que petit à petit... À mon avis, le capitalisme, donc ce système de domination pour le profit, va aussi aller chercher un autre public qui jusqu'à présent était assez peu visible dans la publicité parce que c'est de l'argent à la clé. Et c'est vrai que c'est assez surprenant quand on entend qu'un homme est victime d'une situation anorexique, ça commence à faire son chemin. Et donc ça veut dire que bon, la femme, on l'a bien toute repassée dans tous les côtés, on l'utilise encore et toujours, mais il y a un créneau qui doit encore être exploité fruit de profit. C'est à mon avis un public masculin et peut-être que bientôt on aura des pubs aussi scandaleuses que celles qu'on a vues pour les femmes. Et donc moi, je ne suis pas forcément contente qu'il y ait des hommes dans la publicité, mais je me dis, si c'est pour vendre, ben, en fait, c'est aussi grave que si on utilise des femmes.
Merci Tamara, parce que moi, ça m'éclaire aussi sur ce qui prouve que finalement, le patriarcat et toutes ces valeurs-là marchandes sont aussi défavorables, enfin, autant pour les hommes que les femmes. Et donc voilà, il ne s'agit pas d'une sorte de dichotomie simpliste, guerre des sexes simpliste, c'est pas ça, c'est plus complexe.
Et même dans ma presse People, moi je trouve qu'ils sont aussi vaches par rapport aux hommes qu'aux femmes, parce que c'est vrai que tu vas trouver des articles, comment elles cachent leur rondeur, mais tu vas aussi avoir des commentaires railleurs sur les hommes qui ont pris un peu de poids, ou très positif pour les hommes qui ont, comme ils disent, la tablette de chocolat, donc bien musclés, des pectoraux et des abdominaux. Et je me dis, ben, à mon avis, c'est peut-être aussi difficile à obtenir, ou en tout cas aussi peu naturel que d'avoir un corps parfait de femme. Voilà, donc voilà, les hommes et les femmes se retrouvent parfois dans la même galère de ce corps parfait. Et ce qui permet peut-être, moi j'ai envie de revenir à Bourdieu, parce que justement on se disait, tiens, Bourdieu, c'est toujours actuel cette histoire. Et quand j'entends une publicité pour une cracotte light avec une voix sensuelle d'homme, je me dis, mais peut-être que notre mode de manger change aussi, et que du coup, eh bien, il devient tout à fait judicieux de promouvoir des cracottes light avec une voix d'homme langoureux. Parce que je ne sais pas à qui cette publicité est adressée. Est-ce que c'est un public homo ou un public d'hommes un peu alternatif? Ou peut-être parce que les filles vont craquer sur les cracottes light, parce qu'il y a des hommes très sexy qui craquent pour des cracottes light, j'en sais rien. Mais le fait est que peut-être la façon dont on mange change, qu'on est peut-être moins carnassier, plus... sur des petites portions, c'est parce qu'on travaille moins la terre et qu'on a peut-être moins besoin de dépenser de calories. D'un autre côté, on engloutit parfois certains repas très très vite sur le coin d'une table, donc c'est plein de questions tout ça.
Oui, en fait, moi ça me semble vraiment justement pas dans la cohérence, notre façon de manger actuellement peut-être, qu'on est tiraillé par des courants contraires comme ça, et aussi en fonction des classes sociales, je crois que ça joue beaucoup, puisque malgré ce qu'on disait tout à l'heure sur le bio, étant donné qu'il n'y a pas cette éducation au fait que finalement c'est pas si cher que ça, si on réduit sa consommation, on remarque encore que ce sont les classes privilégiées qui vont manger bio, tandis que les classes plus défavorisées vont moins le faire, en tout cas. Donc je pense que encore une fois, c'est pas simple.
Non, ce n'est pas simple.
Donc, je voulais aussi rajouter que dans les générations, la sculpture, la ligne des femmes a changé. Quand on regarde les poupées Barbie des années 50 ou d'aujourd'hui, elles n'ont plus du tout la même forme. À l'époque, elles étaient avec une taille de guêpe comme aujourd'hui, mais des hanches quand même plus volumineuses, plus de chair, entre guillemets. Et aujourd'hui, les poupées qu'on vend à présent, elles sont absolument filiformes. Et c'est ça aussi qui fait que la représentation a changé. Avant, les femmes, les belles femmes, c'était Liv Taylor ou Marilyn Monroe, qui étaient quand même bien en chair. On peut dire qu'elles étaient bien bourrelettes. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt d'autres femmes, plutôt top modèles, 1m80, 53 kilos. Et voilà, notre représentation de l'image et de la ligne des femmes a changé, et sans doute grâce à cette grande publicité. J'avais envie de vous faire un petit interlude musical pour revenir à Brigitte Fontaine. Et c'est une chanson qu'elle a appelée « La côtelette ». Je suis la femme, la côte d'Adam, c'est le lieu de naissance de Ève, et donc elle a appelé « La côtelette ». Je suis la femme, et je vous invite à écouter, parce qu'il y a un côté un peu ironique, cynique, propre à Brigitte Fontaine, mais qui pourrait être intéressante dans le cadre de notre émission sur l'image et la représentation des femmes. Je vous laisse écouter.
C'est presque fini.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne peux
n'avance pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Poète, prends ta lyre, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Eh bien, la parole, on la prend justement aujourd'hui, on la prend sur... les stéréotypes sexistes, on n'est pas des femmes objets, même si dans la publicité, si dans la haute culture, on est un peu utilisé. Toi, Martha, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça?
Oui, moi je pouvais dire que la haute couture, tout d'abord, c'est une manière de pousser à la consommation parce que ce sont des produits qui sont totalement inaccessibles du public. Et qui sont utilisés via les stars, donc qui sont prêtés aux stars, qui font des tournées. Et alors, ça fait rêver un peu le peuple qui va pouvoir se permettre d'acheter le rouge à lèvres ou les petits accessoires qui sont moins chers et qui sont quand même de la marque. Et je voulais dire aussi que je trouvais ça un peu drôle aussi de voir cette mode... pour revenir à notre sujet précédent du bio, cette mode de bio, du naturel dans les cosmétiques et dans les produits, les shampoings, tous les produits cosmétiques. Donc on voit des extraits de molécules de concombre ou parfois des courants comme ça, comme par exemple à la nouvelle formule à base d'orchidées, de molécules d'orchidées ou de soie.
Et on ne nous dit pas comment on fait pour extraire des protéines d'orchidées. Enfin,
ou la protéine de soie. Je me demande d'ailleurs si la soie comporte des protéines.
Et ça me fait penser à tous les autres produits bio qui sont dans les supermarchés, dont j'ai déjà entendu qu'ils n'étaient pas forcément bio. Donc voilà, ça pose question aussi.
Oui, ou le bio qui vient de l'autre bout de la planète, c'est bien bio. Enfin voilà, ça c'est des débats qu'on a. Moi j'avais envie de te relancer, Alexandra, parce qu'on a beaucoup parlé de publicité et je pensais que c'était l'occasion pour clôturer l'émission de dire, bah voilà, nous à Vie Féminine, on a quand même quelque chose qui a l'air anecdotique, lutter contre la publicité sexiste, mais que c'est quand même bien au croisement de tout ça, l'oppression par rapport au corps de la femme, l'oppression par rapport aux violences conjugales et tout ça. Et donc j'avais envie de te donner le mot de la fin.
Mais merci Hélène. Donc oui, effectivement, on a depuis 2 ans, à Vie Féminine, il y a un groupe qui prend de l'ampleur et qui lutte contre les publicités sexistes. Donc effectivement, c'est pas anodin. C'est vraiment au centre de ce système d'oppression et en lien justement avec le capitalisme. Et donc, voilà, on lutte et on dénonce les publicités. Et je dois même dire que ça trouve écho parce que il y a un manifeste et les gens le signent. Et il y a des publicités comme par exemple la publicité de la société Sipuel. On voit effectivement une femme nue qui est juste derrière une bouteille d'eau. Cette publicité, nous l'avons dénoncée. Le jury d'éthique publicitaire nous a donné raison. L'annonceur, suite à cela, s'était engagé à changer son site internet, sur laquelle on voyait notamment cette femme qui était nue et aux côtés d'un homme aussi derrière une bouteille d'eau, mais lui habillé. Et donc toute une série de spots aussi sexistes les uns que les autres. Et donc cet annonceur n'avait pas changé son site. Je viens de recevoir un message de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes annonçant qu'ils avaient envoyé une lettre de mise en demeure à la société Sipuel parce que effectivement cette pub était jugée sexiste et que donc la société était passible de poursuites. Donc ça prouve que voilà, ce sont des petites gouttes qui portent leurs fruits parce que c'est un véritable enjeu et donc ça a toute sa raison d'être. Voilà.
Voilà. Et puis maintenant, on clôture l'émission peut-être en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve au mois de janvier.
Au revoir à toutes.
À bientôt.
Au revoir.
Oui.
Elles âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.